Donc, merci pour Frédéric et pour Gaël pour leur présentation. Alors moi, je vais vous parler de la révolution tunisienne et plus exactement, quelles sont les leçons. Je vais m'en tenir strictement au sujet. Quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de la révolution tunisienne ? En introduction, je voudrais vous présenter la chronologie très très rapide de la révolution tunisienne pour que on range un petit peu nos idées autour de cette chronologie. Donc la révolution tunisienne, en fait, les événements révolutionnaires proprement dits ont duré du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011. Le 17 décembre 2010, un jeune Tunisien se suicide dans la région de Sidi Bouzid. Ce n'était pas le premier suicide, hein, mais ceux qui sont venus avant n'ont rien donné. Mais ce suicide-là, allez savoir pourquoi, va déclencher une protestation d'abord locale, mais une protestation qui va se généraliser à tout le territoire tunisien, de ville en ville, jusqu'à atteindre la capitale le 14 janvier 2011. Donc, le 14 janvier, ce qui se passe, c'est qu'on a un vide politique, totalement imprévisible, imprévu, imprévisible. Et donc, on peut dire que la révolution tunisienne a été imprévisible, qu'elle n'était pas attendue et que toutes les chancelleries étrangères ne s'attendaient absolument pas à ce que cette révolution ait lieu. Donc, devant ce vide, nous avons bricolé. Il faut dire le mot tel qu'il est, nous avons bricolé des institutions pour remplir le vide. Il fallait bien poursuivre sur le plan institutionnel. Il fallait inventer des process de gouvernement. Et c'est là que a été instituée la haute instance de la Révolution, qui s'appelle exactement la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Ce titre est long, mais je pourrais peut-être au cours de la discussion vous expliquer pourquoi il est si long et à quoi il répond. Donc la haute instance s'est installée quasiment comme un parlement qui ne dit pas son nom parce que ce n'était pas une instance élue, pas du tout. Elle a été choisie par consensus entre les partis politiques qui ont combattu la dictature, parce que nous sortons d'une dictature, un dictateur s'est échappé, un dictateur est tombé, et donc la haute instance a été acceptée par consensus. Et c'est elle qui a préparé les élections de l'Assemblée nationale constituante. Ça, ce n'était pas prévu au début. Ce n'était pas du tout prévu. C'est quelque chose qui s'est imposé par la pression de la rue. Parce qu'à un certain moment, peut-être une quinzaine de jours après le départ du dictateur, la pression de la rue, n'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de manifestations et de pression de la rue, notamment à Tunis même, pour demander une nouvelle constitution, donc des élections nouvelles avec une nouvelle constitution. Et c'est le problème institutionnel dont a parlé tout à l'heure Gaël. Il faut des institutions, mais des institutions nouvelles, radicalement nouvelles. On ne veut rien de l'ancien, on ne veut pas l'ancienne constitution de 59, on veut une nouvelle constitution et de nouvelles élections qui soient libres, disputées, démocratiques, etc. Et d'ailleurs, les élections qui ont été organisées ont été véritablement, et aux yeux du monde entier, les premières élections depuis l'indépendance de la Tunisie, les premières élections libres, disputées, sincères, etc., qui répondent aux exigences et aux canons des élections démocratiques. Ces élections ont eu lieu, voilà une date qu'on ne devons retenir, le 23 octobre 2011. Donc la chute du régime 14 janvier 2011. Le travail de la haute instance se situe entre janvier 2011 et octobre de la même année. Puis, il y a les élections à l'Assemblée nationale constituante le 23 octobre 2011. L'Assemblée commence ses travaux le 22 novembre. Et après de multiples péripéties, notamment l'organisation provisoire de pouvoirs publics, je passe sur ce détail, elle finit par voter une constitution. Après plus de 3 ans de travail, elle finit par voter une constitution le 26 janvier 2014. À partir de là, à partir de l'adoption de la constitution, le régime politique commence à fonctionner sur la base de cette constitution, et c'est sur la base de cette constitution qu'il y a eu 2 élections majeures dans le pays. La première, c'est les élections législatives et présidentielles de 2014, la fin de 2014, novembre-décembre 2014, les premières élections. Et ensuite, les deuxièmes élections, toujours sur la base de la Constitution nouvelle, organisées en octobre-novembre 2019. Voilà les grandes dates, si vous voulez, n'est-ce pas ? Vraiment les grandes dates pour avoir des repères, uniquement pour avoir des repères. Ce que je voudrais dire, c'est que cette révolution a été, comme je l'ai dit, d'abord une révolution imprévisible, une révolution sans leader, sans leadership, donc une révolution sans révolutionnaire, si vous voulez, d'où tous les problèmes qui vont venir de cette difficulté. Une révolution sans révolutionnaire, une révolution sans leader. Cela est-il possible ? Et beaucoup d'auteurs ont nié le caractère de la révolution, parce qu'il n'y avait pas de révolutionnaire dans cette révolution, il n'y avait pas de dirigeant, il n'y avait pas de gouvernement révolutionnaire. Voilà pour la chronologie des événements et le canevas, si vous voulez, le canevas. Maintenant, puisque mon sujet consiste à répondre à la question « Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience tunisienne ?» Je vais maintenant répondre à ces questions d'une manière tout à fait directe, directement à cette question. Première leçon. La première leçon que je tire de la révolution tunisienne, c'est le poids de l'événement fortuit, l'événement qui est accidentel, qu'on n'attendait pas du tout, et qui tourne, qui retourne le déroulement de l'histoire. Le poids de l'événement fortuit, c'est le départ de Ben Ali. Le départ, donc, du président de la République. Ce départ, d'abord, n'était pas programmé. Deuxièmement, ce départ n'était pas forcé. Il aurait pu rester. Rien ne l'obligeait vraiment à partir. Il n'était pas dans la situation d'un chef d'État qui était vraiment contraint à quitter le territoire. Il ne l'était pas. Et d'ailleurs, il y a une révélation qui vient d'être faite très récemment par la BBC, par la chaîne de la BBC anglaise, qui a eu des enregistrements, les derniers enregistrements de Ben Ali, alors qu'il était dans l'avion qui le transportait de Tunis en Arabie Saoudite. La BBC il y a quelques jours, hein, il y a vraiment, 3-4 jours, quelque chose comme ça, vient de révéler ces enregistrements qui ont été enregistrés sur la base du téléphone du président de la République lui-même, parce que il paraît que le téléphone du président de la République est automatiquement enregistré, c'est officiel, c'est une mesure de sécurité. Donc, à partir de ces enregistrements, qu'apprend-on ? La chose essentielle qu'on apprend, c'est que le président a téléphoné au ministre de la Défense, il a téléphoné à d'autres personnalités pour leur dire « je reviens dans les prochaines heures, je vais revenir dans les prochaines heures ». Et le ministre de la Défense lui a dit « c'est très bien, nous contrôlons la situation, vous pouvez revenir ». C'est quelque chose d'incroyable. Donc dans l'esprit du président, il devait revenir. Et les autorités tunisiennes sur place, les autorités de police et l'armée, lui disent « vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème ». Mais la situation sur place a beaucoup évolué, très vite évolué, puisque le jour même, il y a eu une application de la Constitution de 59 qui permet l'intérim du président de la République. Et cet intérim a été déclaré de telle sorte que lorsque quelques heures après le président de la République qui est parti a re-questionné les dirigeants sur place pour leur dire alors quel est l'état de la situation et attendez-vous à ce que je revienne. À ce moment-là, le ton a commencé à changer. Tout ça est net dans les enregistrements téléphoniques. Ils ont commencé à lui dire « la situation commence à échapper à notre contrôle, il vaut mieux ne pas revenir ». Il vaut mieux ne pas revenir. Et donc c'est ce départ, vous voyez, qui était fortuit, qui n'était pas voulu, et c'était le contraire même qui était programmé, puisque le président avait l'intention de revenir, qui me amène à dire que dans les révolutions, les événements fortuits peuvent avoir une très grande importance dans la réussite ou dans l'échec d'une révolution. Que se serait-il passé en France si le roi Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes? C'est une série de contingences, des retards dans l'exécution du projet, une mauvaise coordination entre les différents protagonistes de la fuite du roi, où il devait rejoindre ses armées, parce que l'intention du roi, c'était de revenir en France, après avoir fait une proclamation pour le peuple français avant de partir, pour reprendre le pouvoir et pour tout en acceptant d'instituer une monarchie constitutionnelle, donc d'accepter un certain nombre de présupposés révolutionnaires. Donc toujours la question que je pose, que se serait-il arrivé, que se serait-il passé si ces retards, ces défauts d'organisation mineure n'avaient pas eu lieu en France. Donc voilà. La première leçon que je tire, c'est le poids de l'événement fortuit dans le succès d'une révolution. La deuxième chose, la deuxième leçon que je voudrais tirer, c'est que précisément, nous avons en Tunisie une révolution et sans révolutionnaire. Sans révolutionnaire, cela est évident, puisque la révolution tunisienne a été une révolution populaire, c'est certain, une protestation généralisée, c'est certain, qui s'est étendue, ça a duré 29 jours, 29 jours exactement, du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011. Et l'un de mes collègues français a écrit un livre qui s'intitule « Les 29 jours de la Révolution ». Les 29 jours de la Révolution. Mais cette révolution populaire n'avait pas de dirigeants. Les dirigeants sont venus par la suite pour s'approprier la Révolution. Les islamistes, les autres dirigeants des partis politiques sont venus par la suite après le départ de Ben Ali, parfois d'ailleurs bien plus tard, pour revendiquer, pour s'approprier la révolution. Mais la révolution n'avait pas de chef. Elle avait des meneurs, quelques meneurs, qui se sont d'ailleurs spontanément improvisés, comme l'UGTT, comme certaines sections de l'Union Générale du Travail tunisien, ou comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Ça prouve d'ailleurs la présence de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la présence des opposants à l'ancien régime, prouve que ce fut une révolution démocratique axée sur les libertés individuelles, donc essentiellement une révolution antidictatoriale. Donc voilà, nous avons une révolution d'abord spontanée, qui a fait des martyrs quand même, il y a eu 350 morts à peu près, des milliers de blessés, donc ce n'est pas une révolution sans violence. On dit que c'est une révolution pacifique, pas tellement. Ce n'est pas vraiment une révolution politique, ce fut une révolution qui laissa des morts et des blessés et qui n'était pas dirigée par des révolutionnaires. Mais on va aller plus loin. Non seulement cette révolution n'était pas dirigée par des révolutionnaires, mais ce sont des hommes de l'ancien régime qui en ont assuré la première transition. Et ça, c'est un paradoxe monumental de la révolution tunisienne, puisque sur la base de l'ancienne constitution après le départ de Ben Ali, le nouveau président provisoire de la République, Fouad Mbaza, n'était autre que le numéro 2 de l'ancien régime, c'est-à-dire le président de la Chambre des députés. Et je dis toujours, entre la plaisanterie et le sérieux, je dis toujours que c'est ce qui a sauvé la révolution. C'est cette organisation provisoire des pouvoirs publics confiée à un homme de l'ancien régime qui a sauvé la révolution. Pourquoi ? Parce que cet homme de l'ancien régime ne pouvait pas lever le petit doigt pour contrecarrer les ambitions révolutionnaires et les projets que lui présentait la haute instance de la révolution. Étant donné son poids, étant donné son profil, il ne pouvait pas résister à la volonté de la haute instance de la révolution parce que, tout simplement, il était trop marqué, négativement trop marqué, et donc il n'avait pas le droit d'opposition. Le fait qu'il ait été le numéro 2 de l'ancien régime lui enlevait tout droit à l'opposition. Et ça a facilité les choses, parce que si vous imaginez que les meneurs de la révolution avaient pris le pouvoir, on serait rentré dans un cycle de conflits de leadership, de conflits entre meneurs, mais de conflits entre meneurs qui auraient pu déboucher sur une guerre civile ou sur une mini-guerre civile. Et donc, vous voyez que c'est le deuxième paradoxe de cette révolution et la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que ce fut non seulement une révolution sans révolutionnaire, mais qui fit, dans un premier temps, qui fit appel à des hommes de l'ancien régime, à des responsables de l'ancien régime, pour gouverner la première période de transition. C'est-à-dire, quand je dis première période de transition, c'est la période qui va de la chute du régime, le 14 janvier 2011, à l'élection de l'Assemblée nationale constituante, le 23 novembre 2011. Le 23 novembre 2011, nous avons donc l'élection de l'Assemblée nationale constituante, et là, nous allons entrer dans une nouvelle surprise. Et c'est la troisième conclusion qu'on peut tirer de la révolution, la troisième leçon qu'on peut tirer de la révolution, c'est que les élections du 23 octobre 2011 ne correspondent pas du tout au profil de la révolution, au premier profil de la révolution, c'est-à-dire aux 29 jours de la révolution. Parce que voit-on au cours des élections du 23 octobre 2011, nous voyons un succès d'un parti islamiste, un parti majoritaire islamiste, qui certes a combattu la dictature, qui a même souffert considérablement des tortures, des emprisonnements, des exclusions qui ont été menées par la dictature, mais c'est ce parti qui remporte les élections avec 37% des voix, des suffrages exprimés, et 89 sièges à l'Assemblée nationale constituante. Alors, avec des partis minoritaires, mais qui avaient, disons, les mêmes tendances politiques, la même idéologie, ils pouvaient avoir une forte majorité, la majorité absolue, quasiment, à l'Assemblée nationale constituante. Et le paradoxe, c'est que nous avons un décalage entre le peuple de la Révolution et le peuple des élections. Il faut dire que ce phénomène est courant dans l'histoire. Nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà rencontré. La Tunisie n'a pas innové dans ce domaine-là. Si je compare avec la France et la Révolution de 1848, la révolution en France fut même beaucoup plus fort, parce que après ce que certains historiens appellent l'illusion lyrique de février 1848, Tocqueville, qui a vécu la révolution de 1848, il disait « Le bas peuple devient le maître de Paris ». Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça par la suite, parce que par la suite, après la révolution de 1848 et cette illusion lyrique, qui était une révolution du peuple, une révolution non seulement anti-monarchique, républicaine, mais une révolution populaire, qui a d'ailleurs subi de la répression par la suite. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les élections d'avril 1848 qui n'ont pas du tout correspondu au profil de la révolution de février 1848, parce que la majorité de l'Assemblée était composée de républicains modérés, de monarchistes légitimistes, de monarchistes orléanistes, alors qu'on venait de mettre dehors le roi en question. Et par conséquent, c'est la fin de l'illusion lyrique. Et encore une fois, nous avons ce phénomène de décalage entre le peuple de la Révolution, le bas peuple devenu le maître de Paris, pour reprendre la formule de Tocqueville, et le résultat des élections. Mais cela va être pire par la suite, parce que ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Il va y avoir les élections présidentielles en France, les élections de décembre 1848, les élections du 10-11 décembre 1848, et entre tous les candidats, c'est lui, Napoléon Bonaparte, qui l'emporte, avec 74% des voix quand même, c'est énorme. Ce qui lui a permis, évidemment, d'organiser son coup d'État du 2 décembre 1851, et le plébiscite, et la nouvelle constitution française, etc., etc. Donc tout cela pour dire que ce décalage entre le peuple de la Révolution et le peuple des élections n'est pas une grande nouveauté. La Révolution de 1848 en France se termine par l'installation, en définitive, l'installation de Louis-Napoléon Bonaparte et de l'Empire, du Second Empire. Ce n'est pas très brillant pour une révolution. Comme d'ailleurs pour la grande révolution elle-même, la grande révolution de 89, là aussi ça n'a pas été très brillant, parce que nous avons eu 10 années d'instabilité politique énorme, de souffrance pour le peuple français, de très grandes souffrances, une période de conspiration, une période d'assassinat, une période de renversement perpétuel de régime, jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire, et puis ensuite la suite que nous connaissons, le consulat et le Premier Empire. Et puis une première restauration, et puis une deuxième restauration, etc. De telle sorte que la Révolution française, pour s'affirmer, a eu besoin d'un retour. Le retour de 1830, le retour de 1848, et puis ensuite la Commune de Paris, quand même, qui a repris beaucoup de symboles de la Révolution française. Et donc ces révolutions se terminent mal, en définitive. La révolution de 1848 s'est mal terminée. La révolution française, bon, nous jugeons maintenant que ce fut une grande révolution parce que nous avons le recul historique, Mais si nous interrogions les témoins de la Révolution française, ceux qui ont vécu la Révolution française, ceux qui avaient entre 30 et 40 ans au cours de la Révolution française, je crois qu'ils nous donneraient, entre ce qu'ils ont vécu comme guerre civile, comme guerre internationale, comme conspiration, comme changement de régime, comme coup d'État, n'auraient pas peut-être été aussi satisfaits de cette révolution. Et la quatrième, justement, c'est le quatrième, la quatrième leçon que je voudrais tirer de la révolution tunisienne, c'est que cette révolution nous apporte des enseignements exceptionnels sur l'achèvement d'une révolution ou le retournement de la révolution. Comme je vous l'ai dit, nous avons ici, dans l'histoire générale, nous avons des précédents. Le 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799 en France, le 2 décembre 1851 pour la révolution de 48, qui également se termine par un retournement complet. Mais dans le cas de la Tunisie, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. Un coup d'État peut-être, et ça je l'ai dit, personnellement je l'ai dit, je l'ai affirmé le lendemain même du 25 juillet. Il s'agit d'un coup de force dont maintenant nous allons quelque peu parler. Le président de la République, l'actuel président de la République a été élu en octobre 2019. Il avait un programme électoral, une propagande électorale très très inédite, fondée sur l'édification d'une démocratie directe contre la démocratie représentative, contre le système des partis, contre le spectacle de l'Assemblée des représentants du peuple. C'était devenu véritablement un spectacle, un cirque, un vrai cirque, avec beaucoup d'inefficacité et avec une aggravation de la crise économique et sociale, et surtout un appauvrissement considérable de la classe moyenne, c'est-à-dire ce qui faisait la force de la Tunisie, sa classe moyenne, la classe des instituteurs, des chefs de service, des sous-officiers, des professeurs de l'enseignement secondaire qui, à la fin de leur vie, pouvaient espérer avoir un patrimoine qui les mettait en dehors de la pauvreté pour assurer leur propre existence, mais également l'existence de leurs enfants. Eh bien, l'appauvrissement de la classe moyenne en Tunisie, c'est-à-dire la sortie d'une partie de la classe moyenne vers la classe vulnérable et la classe défavorisée, va avoir un impact considérable sur le surgissement de ce coup de force du 25 juillet. En effet, devant la crise des institutions, nous avons une crise des institutions terrible, les partis politiques sont inefficaces, l'Assemblée des représentants du peuple ne bouge pas. La corruption prend des proportions qu'elle n'a jamais eues en Tunisie. Après la Révolution, nous avons eu une démocratisation de la corruption. Tous achetés. Vous pouvez acheter votre permis de conduire, vous pouvez acheter vos diplômes, etc. C'est-à-dire que ça a atteint des proportions intolérables pour le corps social. Donc, devant cette crise généralisée, le président de la République, après avoir d'ailleurs accompli un certain nombre de gestes anticonstitutionnels précédents contre l'ancien régime, mais nous allons passer ces détails, utilise un article qui est l'article 80 de la Constitution tunisienne de 2014 pour proclamer l'état d'exception. Alors, un petit mot sur cet article 80. L'article 80 de la Constitution tunisienne, c'est un peu l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. Et l'article 16 de la Constitution française a été appliqué par le général de Gaulle après le putsch de l'armée algérienne, c'est-à-dire de l'armée française, en fait, parce que l'essentiel de l'armée française était en Algérie. Et donc, les putschistes, les généraux putschistes qui ont menacé de débarquer sur Paris, il fallait bien les contrer d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que Michel Debré a appelé la population à la résistance et que le général de Gaulle a mis en application l'article 16 parce que la France était dans un cas de péril imminent, de très grave péril. Mais la philosophie de l'article 16, c'est de sauver la Constitution et de sauver les institutions, pas de suspendre la Constitution et de renvoyer les institutions. Or, en Tunisie, l'article 80 a abouti à ce résultat extraordinaire de d'abord suspendre la Constitution, malgré ce que en dit le président de la République, il y a eu une suspension de la Constitution, ensuite le gel de l'Assemblée des représentants du peuple, c'est-à-dire que le lendemain du 25 juillet, des chars ont été placés devant le palais du Bardo, qui est le siège de l'Assemblée des représentants du peuple. Et lorsque le président de l'Assemblée est venu, il n'a pas pu, et les députés avec lui n'ont pas pu entrer parce que les militaires leur ont dit, nous avons reçu des ordres, on ne doit laisser rentrer personne. Donc, les activités de l'Assemblée des représentants du peuple ont été bloquées. Et le gouvernement a été renvoyé, ce que le président n'avait pas le droit de faire en vertu de l'article 80, parce que l'article 80 exige que l'Assemblée des représentants du peuple soit en session permanente, c'est-à-dire que même les vacances parlementaires doivent être... il n'y a plus de vacances parlementaires, et ensuite le gouvernement ne peut pas être renvoyé ni faire l'objet d'une motion de censure. Autrement dit, la présence de l'Assemblée et la présence du gouvernement sont deux éléments nécessaires pour la mise en application de l'article 80. En plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'article 80 exige la présence de la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que un mois après la mise en application de l'article 80, les députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour dise si on doit arrêter les mesures exceptionnelles ou bien si, parce que les circonstances ne l'imposent plus, les mesures exceptionnelles doivent être arrêtées, stoppées. Or, lorsque le 25 juillet, le président a mis en jeu l'article 80 de la Constitution tunisienne, la Cour constitutionnelle n'existait pas encore. Elle n'a pas été élue, d'abord. C'est l'Assemblée des représentants du peuple qui n'a pas réussi à faire élire les membres désignés par l'Assemblée à la Cour constitutionnelle. Mais la deuxième raison, c'est que le président de la République actuelle s'est opposé à la loi qui a fini par être votée par l'Assemblée parlementaire sur la Cour constitutionnelle. Il a refusé de la promulguer. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que ce coup de force contre la Constitution ait été admis par la population ? Il ait été ratifié par la population ? Et il faut le dire, le jour où le président de la République a mis en application l'article 80, il y a eu des manifestations généralisées dans le pays pour le soutenir. Pourquoi ? Eh bien parce que, Federico parlait de la subjectivité, mais parce que dans la subjectivité de chacun d'entre nous, il fallait mettre fin à la période du gouvernement islamiste et à la période de mise en application de la Constitution de 2014 parce que ça ne réussit pas, parce qu'il n'y a que crise, il n'y a que conflit, il n'y a que passivité, il n'y a que manque d'efficience, il n'y a que corruption, il n'y a que développement des querelles inutiles, du cirque parlementaire, du spectacle parlementaire, etc. De telle sorte que lorsque le président de la République a mis en application l'article 80, contre toute exigence juridique, les gens ont dit, écoutez, les exigences juridiques, vous les laissez pour les juristes, nous n'avons pas besoin de juristes, nous voulons régler les problèmes réels du pays. Et ils ont suivi à plus de 90% le président de la République dans sa mise en application de l'article 80. Donc le soutien populaire, je ne le remets pas en cause du tout. Le soutien populaire, je le reconnais, puisque je l'ai vu. Puisque tout le monde est sorti pour voir l'explosion de joie populaire le 25 juillet. Donc, le début a très bien commencé. Le 25 juillet, c'était très bien. Si j'ai été personnellement en désaccord avec la mise en application de l'article 80, c'est parce que peut-être je savais, j'avais des informations que n'avaient pas les gens qui ont révélé, qui ont exprimé leur joie le 25 juillet, parce que je connaissais l'homme en question, je le connaissais très bien, et peut-être que personnellement, j'avais des éléments qui étaient très très inquiétants, de telle sorte que le lendemain du 25 juillet, le 26 juillet exactement, j'ai dit que la mise en application de l'article 80 par le président de la République était un coup d'État contre la Constitution. C'est ce que j'ai dit. Un coup d'État contre la Constitution. Bien sûr, j'ai fait l'objet d'un lynchage médiatique extraordinaire parce que les gens ont cru que je disais que c'était un coup d'État. Et les gens associent en général coup d'État à coup d'État militaire, alors que pour moi, il s'agissait d'un coup d'État contre la Constitution. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que va-t-on avoir par la suite ? C'est bien beau d'organiser des coups d'État contre la Constitution. Encore faut-il avoir des dirigeants d'un certain gabarit, d'une certaine hauteur de vue, des responsables qui puissent organiser le consensus et non pas des responsables qui organisent le clivage de la société, non pas des personnages clivants. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que sous le couvert de rectification du processus révolutionnaire, parce que c'est ce que prétend le président actuel, il s'agit pour lui d'une rectification du processus révolutionnaire, nous sommes en train de nous engager petit à petit vers de l'état d'exception à l'état de dictature. Voilà le risque. Car qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tous les pouvoirs ont été concentrés entre les mains du président de la République, le pouvoir exécutif, tout le pouvoir exécutif, parce qu'avant on avait un pouvoir exécutif bicéphale, un gouvernement plus un président de la République. Maintenant, ce caractère bicéphale de l'exécutif n'existe plus. Le président est le chef du gouvernement et le chef de l'État. Et c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Donc, il est le chef de l'exécutif avec un exécutif unique. Deuxièmement, il est le chef du pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il peut intervenir dans le domaine des lois. Et quand je dis le domaine des lois, moi, le domaine qui m'intéresse, c'est surtout le domaine des libertés publiques et des droits de l'homme. Il peut intervenir dans ces domaines-là uniquement par des actes présidentiels, par des décrets-lois présidentiels. Donc, il y a une concentration du pouvoir. Et la concentration du pouvoir, personnellement, elle m'inquiète. Parce que j'ai bien peur que la solution trouvée à une crise soit pire que la crise elle-même. C'est le risque que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. C'est que ce chambardement de la Constitution, ce coup de force de la Constitution, au lieu d'apporter un mieux-être politique, un progrès politique, une stabilisation de la société va peut-être au contraire amener encore plus de perturbations dans le corps social parce que les problèmes ne sont pas résolus. Et donc la mise en application de l'article 80 a été consacrée par la suite avec le décret du 22 septembre le 22 septembre 2021, donc décret qui est un décret monstrueux sur le plan juridique. Je n'ai pas besoin de faire l'explication juridique. Peut-être que tout à l'heure, dans la discussion, on pourra en dire un mot. Mais c'est le décret par lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président. Et puis, devant la pression populaire, mais devant également la pression internationale, parce que la Tunisie est un petit pays, heureusement pour nous d'ailleurs, c'est un petit pays qui ne peut pas avoir de très grandes ambitions de soutien, par exemple, des puissances, des grandes puissances régionales et surtout des grandes puissances internationales. C'est peut-être par la pression de ces puissances, et notamment de l'Union européenne, que le président a fini par proclamer une feuille de route le 13 décembre dernier, le 13 décembre 2021. Mais cette feuille de route est très aléatoire, à mon avis. C'est une feuille de route qui est aléatoire parce que, d'abord, elle commence par l'organisation d'une consultation électronique. Consultation électronique qui est contrôlée par la présidence, qui, soi-disant, est secrète et confidentielle, alors que pour entrer sur la plateforme électronique, il faut donner le numéro de sa carte d'identité, son nom et le numéro de sa carte d'identité. Je me demande où est le caractère confidentiel. Alors que 46% de la population tunisienne n'est pas branchée sur Internet et ne peuvent pas accéder à la plateforme. Alors qu'en méthode démocratique dans un pays comme la Tunisie, cette consultation populaire me semble extrêmement illusoire. Deuxièmement, il va y avoir un référendum qui va sur un projet qui va être fait par le président après la consultation populaire. Mais le référendum, nous savons ce qu'il est, parce que le référendum, c'est souvent un mécanisme plébiscitaire qui sert à renforcer le régime, qui sert à renforcer le pouvoir d'un homme. Et enfin, des élections législatives, ça c'est la feuille de route, qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 2022. Personnellement, je suis très très sceptique et je ne crois pas que cette feuille de route tiendra la route, justement. Je ne crois pas que cette feuille de route tiendra la route. À cause de tout cela, à cause de l'ensemble de ces éléments, la révolution tunisienne a donc été contestée entre partisans, entre adversaires, et à la lumière de ce qui se passe actuellement, beaucoup de gens disent c'est fini, la révolution s'est terminée, ça se termine par des pouvoirs exceptionnels, et ces pouvoirs exceptionnels vont procéder à une réinstallation du caractère anti-dictatorial de la révolution de 2010-2011. Ce à quoi je réponds, et je vais terminer tout de suite, je réponds que cette révolution tunisienne de 2010-2011, comme plusieurs autres révolutions avant elle, va s'étirer sur le temps. Ce n'est pas une révolution qui va amener des acquis immédiats. Maintenant, c'est devenu inimaginable, puisque la révolution a eu lieu en 2011 et que nous sommes déjà en 2022. Donc, il n'y a aucun effet immédiat sur le plan politique et social. Qu'avons-nous gagné par cette révolution? Ce que nous avons gagné, c'est quelque chose de réel. C'est l'acquisition de la liberté. Sur le plan de la liberté, je crois que nous avons été bien servis par cette révolution. Mais étant donné ce que Frédérico te disait tout à l'heure, cette révolution n'est pas terminée parce que, et je vais reprendre ton idée qui va certainement m'inspirer à l'avenir, parce que les subjectivités ont changé précisément, parce que les gens ont acquis des valeurs nouvelles, des représentations nouvelles du politique qu'ils continueront à défendre. Par conséquent, à mon avis, et malgré ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la révolution de 2011 ne fait que commencer. L'affaire du 25 juillet, loin de constituer une fin de programme pour la révolution constitue, je pense, un nouveau rebondissement de la révolution. Et le jour où cet état d'exception se terminera, nous aurons de nouveau, par l'effet de ces subjectivités nouvelles qui se sont créées justement à l'intérieur de la société, dans l'esprit individuel évidemment, comme le disait notre collègue tout à l'heure, mais également par l'intermédiaire des institutions qui ont goûté à la liberté au cours de ces 10 années de révolution, c'est-à-dire les associations, les partis politiques, les syndicats. Tout cela va faire que nous allons encore attendre longtemps pour avoir les résultats définitifs de cette révolution de 2010-2011. La seule chose que je peux dire jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est que notre affaire n'est pas terminée et que la révolution de 2011 en est encore à ses débuts. Je vous remercie.